Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année 2021, pour cette nouvelle saison également de conflit après cette pause de Noël. Nous débutons pour une sixième saison de podcast et je suis aussi ravi de vous proposer d'autres auteurs avec qui nous allons échanger et converser tout au long de cette année. Et puis vous pouvez également retrouver en kiosque notre nouveau numéro qui est consacré à la Méditerranée orientale, les enjeux du gaz, de la Turquie, de la Libye. C'est un petit peu un complément de ce que nous avions fait dans notre numéro consacré à la Turquie, un numéro à retrouver en kiosque avec de très nombreuses cartes sur la Méditerranée orientale et qui, je n'en doute pas, vous plaira beaucoup. Alors nous allons rester cette semaine entre la France et l'étranger pour aborder un sujet qui est un peu sensible mais qui est essentiel, qui est celui de Français qui se mettent au service de l'étranger. Des Français qui, par cupidité, par affairisme, parfois simplement sans se rendre compte de ce qu'ils font, s'insèrent dans des réseaux internationaux et peuvent même venir à prendre des positions qui peuvent nuire à la France. Pour parler de ces Français au service de l'étranger, je reçois cette semaine Clément Fayol. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous ai déjà reçu il y a quelques années, deux ans je crois, c'était pour évoquer un de vos précédents ouvrages sur les réseaux mafieux de Daesh, que nos auditeurs peuvent retrouver dans les archives de conflit. Donc vous êtes journaliste d'investigation, vous avez publié plusieurs ouvrages, donc un qui était consacré aux réseaux mafieux de Daesh, un autre sur les réseaux de Mélenchon. Et vous venez de publier donc aux éditions Plomb « Ces Français au service de l'étranger, affairisme, mélange des genres ou naïveté, quand notre élite oublie la France ». Alors le titre évidemment évoque cette question qui est un vrai sujet de personnes qui peuvent se mettre au service d'un autre pays. En d'autres temps ou en temps de guerre, on parlerait d'intelligence avec l'ennemi. Mais est-ce que l'étranger est forcément un ennemi d'ailleurs? Et on va voir notamment plusieurs cas que vous étudiez. Et première question peut-être, est-ce que c'est un phénomène qui est véritablement nouveau ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a toujours un peu trouvé finalement, des personnes qui passent d'un côté ou de l'autre et qui, pour des raisons d'affinité intellectuelle, politique ou financière, se travaillent pour d'autres pays?
C'est forcément un phénomène qui est un peu nouveau, enfin qui est relativement nouveau, dans la mesure où c'est rendu possible par le fonctionnement des instances internationales, le fonctionnement de l'internationalisation des entreprises et globalement la mondialisation. Et après, c'est un sujet que j'ai identifié en travaillant sur les réseaux comme je fais au quotidien, c'est-à-dire d'essayer de comprendre comment fonctionnent les réseaux d'influence étrangers. Et en travaillant sur les différentes nationalités, différents dossiers, différents groupements d'intérêts, il m'est apparu un an et demi, quand j'ai commencé cette enquête, que à chaque fois, les réseaux étrangers trouvaient dans les membres de notre élite des relais d'influence. Et alors, c'est quelque chose qui m'a semblé assez concernant pour la défense de nos intérêts, pour notre pays, de comprendre que ceux qui avaient vocation à défendre les intérêts de la France finissaient par faire exactement l'inverse.
Ces réseaux de l'étranger, est-ce qu'ils se concentrent parmi certains pays? Il y a les pays peut-être du Golfe, hein, c'est les pays qui ont de l'argent généralement, donc pays du Golfe, Chine, États-Unis, Russie, est-ce qu'on fait une typologie des différents pays?
Oui, on pourrait faire une typologie. Alors moi, je la fais de manière un peu caustique, en montrant qu'il existe une forme, déjà une première typologie, c'est que la défense d'intérêts étrangers n'a pas la même respectabilité selon son origine. C'est-à-dire que, pour le coup, un haut fonctionnaire ou un homme politique qui va se mettre au service d'intérêts américains, c'est quelque chose qui va être relativement accepté par ses pairs. alors que de se mettre au service des réseaux russes, des réseaux chinois ou des réseaux de la Corée du Nord, c'est quelque chose qui va être forcément moins accepté. Mais là où vous avez raison, c'est qu'il y a aussi quand même une typologie dans la mesure où les pays qui ont une projection de puissance, qui s'intéressent à la France pour leurs propres intérêts, ne s'intéressent pas à la France pour les mêmes raisons. Les États-Unis, le rapport qu'ils vont avoir à la France, c'est un rapport hégémonique, un rapport normatif avec les grands cabinets anglo-saxons, les grands cabinets d'affaires, etc. Et ce rapport-là qui est très culturel et qui va s'exprimer dans beaucoup de réseaux différents, que ce soit des réseaux justement d'affaires, que ce soit des réseaux culturels, que ce soit des réseaux même de banlieue, parce qu'ils ont une grande, ils ont un, comment dire, les un grand intérêt à sur les sujets de diversité, etc. Et donc ça, c'est la manière avec laquelle vont se comporter les États-Unis. En revanche, quand vous regardez du côté de l'Azerbaïdjan, de l'Arménie, pour prendre un dossier actuel, vous allez voir que c'est plutôt la recherche du soutien d'un membre du Conseil de sécurité. Donc ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus sur l'opinion publique pour ensuite avoir un impact dans nos institutions. Voilà, donc chaque pays a son approche. Et en fait, ça montre au moins quelque chose que j'explique dans le prologue, c'est que la France reste quand même un pays qui compte, parce que le rapport que toutes les puissances ont à la France montre qu'ils pensent qu'ils peuvent toujours obtenir quelque chose.
Oui, c'est finalement un bon signe. Ça veut dire que la mariée est intéressante. Si on veut l'acheter, c'est qu'a priori,
voilà, exactement.
C'est plutôt encore bon signe pour la position de la France, malgré tout.
Après, il y a des choses qui sont plus. Il y a moi notamment un homme d'affaires qui connaît très bien la Chine et qui me disait que ce qui était un peu, notamment pour les réseaux chinois, les Chinois s'intéressent à tous les pays parce qu'ils ont la capacité de s'intéresser à tous les pays, mais s'intéressent particulièrement à la France pour son poids dans l'Union européenne et sa corruptibilité. Donc c'est voilà, deux facteurs qui sont pas aussi reluisants l'un que l'autre.
Alors on évoquait l'Azerbaïdjan et la Chine, ça fait penser à deux personnalités politiques. Enfin, la chose étant connue, il y a la maire de Paris, Rachida Dati, qui est plutôt proche de l'Azerbaïdjan, et Jean-Pierre Raffarin, qui est plutôt proche de la Chine. D'ailleurs, vous traitez le cas Raffarin dans un des chapitres. Ça a commencé, enfin, pour Jean-Pierre Raffarin, ça a commencé quand il était Premier ministre. Il se rend en Chine lors d'une première épidémie
de SRAS.
D'ailleurs, assez courageux de sa part, parce que la Chine était un peu fermée. En tout cas, c'était montrer aussi la présence de la France. Comment ça se passe, cette organisation? Enfin, comment est-ce que Jean-Pierre Raffarin est aujourd'hui un ambassadeur de la Chine en France?
Bah déjà, il le veut, parce que lui, c'est quelque chose sur lequel il mise. Il se présente comme un grand orientaliste, quelqu'un qui connaît parfaitement la Chine, etc. Et ensuite, il faut comprendre que il a exactement le profil des personnalités qui intéressent la Chine. C'est-à-dire que les Chinois, avec leur approche, comment dire, de leur projection de puissance à eux, elle est mondiale. Et ils ont, ils ont la volonté de montrer que le rayonnement de leur culture est quelque chose qui infuse chez les autres. Donc, pour leur propre opinion publique, avoir un ancien Premier ministre d'un membre des conseils de sécurité des Nations Unies qui vient sur une télévision publique et qui explique que la Chine est la lumière du monde et a quelque chose à apporter au monde, pour eux, c'est extraordinaire. C'est quelque chose de très important. Et ils le font avec la France, avec Jean-Pierre Raffarin, mais pas seulement. Ils l'ont fait avec Raoul Castro. Enfin, ils le font. Ils cherchent des grandes personnalités qui vont permettre d'appuyer leur prétention à un leadership mondial.
Ça veut dire que l'intérêt est plus pour la Chine, question de politique intérieure. C'est quelqu'un d'étranger qui vient parler aux Chinois que pour influencer sur la politique française.
Alors Jean-Pierre Raffarin, il a des missions officielles de la France. Confié par le Quai d'Orsay pour des questions de diplomatie économique et autres. Donc en soi, il pourrait y avoir un intérêt pour la France à avoir comme ça quelqu'un qui est bien perçu, qui a un bon réseau. Dans le livre, ce que je montre qui est plus problématique sur son cas, c'est que finalement, il accepte d'être complètement pris en main par les Chinois et d'être montré en étendard, et donc il est assez instrumentalisé. Alors que moi, quand je lui pose la question, il me répond, je crois le risque d'être manipulé faible. Or, la Chine est quand même un pays qui a justement qui a justement cette organisation, cette hiérarchie et ce, comment dire, cette capacité à organiser sa stratégie, qui fait que justement on sait mettre en valeur les gens, on sait justement les manipuler pour sa propre opinion.
Est-ce que ça marche? Parce que quand Jean-Pierre Farras sort un livre à la gloire de la Chine, on sait bien pourquoi il le fait et dans quel réseau il est. Donc, est-ce que c'est vraiment efficace pour la France, ou est-ce que finalement il n'est pas déjà grillé? Donc
là, vous posez une bonne question, parce que justement là, dans ce livre là, j'ai essayé d'être très factuel, justement parce que quand on décrypte les réseaux d'influence, on pourrait être tenté parfois de survendre l'influence ou l'impact que peuvent avoir certaines personnes. En réalité, moi, mon approche, elle est pas de dire Jean-Pierre Raffarin a la capacité de faire changer la position de la France sur un tel ou tel sujet. Moi, ma vision est plutôt de dire Jean-Pierre Raffarin est identifié par les Chinois comme une personnalité qui compte et qui va être utile dans leur propre pays. C'est pour ça que je parle aussi de naïveté coupable. C'est parce que pour moi, les élites et ceux qui ont été premier ministre, hommes politiques, hauts fonctionnaires ou même patrons de grands groupes publics, ils ont pas le droit d'être naïfs, ils ont pas le droit d'oublier qu'ils ont une fonction pour notre intérêt commun, qui sont le fruit d'un investissement collectif, culturel, historique, ou même tout bonnement, du fait qu'on ait financé leurs études, et que de voir que dans leur deuxième partie ou troisième partie de carrière, ils finissent par plus servir les intérêts de la Chine que les intérêts de la France, de mon point de vue, c'est problématique.
Alors, vous avez évoqué le cas de l'Azerbaïdjan. Il y a notamment Rachida Tati qui est assez proche de ce pays. Là aussi, si on regarde le cas du conflit Arménie-Azerbaïdjan, via le Haut-Karabakh, qui est intéressant, c'est que la diaspora arménienne en France est extrêmement importante. Elle s'est beaucoup activée en faveur de l'Arménie. Et pour autant, le résultat a été très faible, dans la mesure où la France n'est pas intervenue, a laissé faire la Russie. Alors, il y a eu la reconnaissance par le Sénat du Haut-Karabakh comme État indépendant, enfin, c'est plus symbolique qu'autre chose.
Oui, ça, c'est énorme, d'un point de vue, du point de vue efficacité sur le terrain, je suis d'accord avec vous, ça n'a pas forcément fait grand chose, mais de parvenir à faire voter par le Sénat ou par une des deux chambres quelque chose qui n'est pas en phase avec le Quai d'Orsay, c'est pas neutre, c'est une forme d'influence quand même. Ouais. Et les États étrangers qui ne sont pas extrêmement puissants, qui n'ont pas de grand relais en France, ils vont essayer de passer par l'Assemblée. Dans le livre, je raconte comment l'Azerbaïdjan a financé deux consultants français, qui sont deux personnes issues de nos institutions aussi. Comment est-ce qu'ils les ont financés pour qu'ils créent un groupe d'amitié franco-azéri et à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit bien que tout levier d'influence est bon à prendre finalement. Donc, pour la reconnaissance par le Sénat, c'est quand même du point de vue de l'influence, même si l'Arménie, c'est différent parce qu'il y a une influence culturelle, il y a une influence d'opinion politique, c'est quand même moins organisé, c'est moins réseauté, on pourrait dire. Mais je pense que c'est quand même pas neutre.
Est-ce que la France fait pareil à l'étranger? Est-ce qu'on a des réseaux français à l'étranger où on essaye aussi d'acheter, John Kerry, Joe Biden ou un autre? Et puis il y a aussi les diasporas françaises qui, à Moscou, à Londres, essayent d'influencer pour côté français.
Là, justement, non. Justement, nous, on est quand même assez légalistes. On va avoir nos représentants, nos diplomates, etc. Mais tout ce qui est diplomatie d'affaires, etc., ce sont pas des choses qui sont extrêmement répandues.
Donc, nous sommes corruptibles, mais pas corrupteurs.
Voilà. Moins qu'avant.
Donc, il y a quand même un peu d'honnêteté. Ouais. Ou de naïveté, je ne sais pas. Autre cas que vous avez étudié, c'est celui des anciens présidents qui sont rémunérés pour donner des conférences. Bon, notamment le cas de Nicolas Sarkozy, puis Dominique de Villepin, qui lui n'a été que premier ministre. Mais ça, c'est une mode qui a commencé avec Tony Blair. C'était un des premiers à monétiser sa fonction.
Les conférences en elles-mêmes, j'en parle parce que je m'intéresse à la nouvelle vie professionnelle de Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin. Même si Dominique de Villepin, lui, c'est pas tellement des conférences, lui, c'est plutôt de la diplomatie d'affaires avec ces différentes sociétés. Mais en soi, c'est pas problématique si c'est pas financé par un groupe d'intérêt ou quelque chose qui serait problématique. Moi, si je m'intéresse à Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin, c'est plutôt parce que, en réalité, ils prétendent que leur nouvelle vie professionnelle est une nouvelle vie, comme si le fait d'avoir été président de la France ou premier ministre n'avait rien à voir avec le fait que quand ils arrivent dans un pays, ils sont reçus en fanfare avec 5 voitures officielles et le drapeau de la France et du pays qui les accueille. Et c'est là où j'explique que c'est une forme de braderie du prestige de la France de faire ça. D'avoir un président français ou un ancien premier ministre qui peut aller représenter une société étrangère dans un pays dans lequel la France a une grande influence, c'est quelque chose qui nous concerne. On peut pas considérer que c'est uniquement du ressort de la nouvelle vie professionnelle et privée de nos anciens dirigeants.
Il y a le cas Gerhard Schröder, qui est un peu le cas archétypal, qui après avoir été chancelier allemand, va travailler chez Gazprom.
Oui. Ou Tony Blair, etc. Oui, il y a des cas. Il y a d'autres cas, ça c'est sûr. Et après, moi, ce que j'essaie surtout de ne pas faire dans ce livre, j'essaie vraiment d'éclairer de nouveaux réseaux, de montrer le fonctionnement de différents secteurs. C'est pour ça que j'essaie de balayer des situations les plus diverses et variées. Mais je m'interdis surtout de faire une hiérarchie de gravité. C'est pas comme ça que je vois mon métier. Moi, ce que je veux juste, c'est mettre à jour des réseaux, mettre à jour des anecdotes ou des sujets, des contrats, pour faire comprendre justement comment est-ce que le mélange de genre, l'affairisme sont des queues de comète d'une trahison collective d'une grande partie de nos élites.
Et est-ce que le mal n'est pas aussi plus profond? C'est-à-dire que c'est dans la question de la formation des personnes. Vous avez un chapitre qui vous intéressait à une génération, quelle génération Lagarde. Donc lorsque Christine Lagarde était ministre des Finances à Bercy, sous le mandat de Nicolas Sarkozy, de voir un petit peu ce que les gens sont devenus. Pour la plupart, ce sont des gens qui ont eu la même formation, c'est Sciences Po ENA, peut-être à peu d'exceptions près. Donc c'est quelque chose aussi qui se fait au moment de la formation. Et là, ce sont des gens qui ont été formés dans les années 90 à peu près. Enfin, les 80 et les 90.
Il y a un étudiant de l'ENA qui je posais cette question, qui me disait qu'il y avait que une des manières de comprendre le fait que de nombreux énarques finissaient par partir dans le privé, c'était de voir la proportion de personnes qui avaient fait des écoles de commerce avant de faire l'ENA. Et lui disait finalement, ce sont les personnes qui font des grandes écoles de commerce. Une fois qu'ils l'ont faite, la seule chose qui est plus prestigieuse que HEC, ESSEC, ou une grande école américaine, ça va être l'ENA. Donc finalement, il disait qu'il y avait quand même une proportion importante de personnes qui faisaient l'ENA parce qu'ils étaient capables de faire l'ENA, et non pas parce qu'ils avaient le service public chevillé au corps. Donc ça, je pense que c'est une première explication. Et après, ensuite, vous avez raison, il y a un sujet qui est quand même assez important, c'est de voir que les institutions vont broyer les bonnes volontés. Rencontrer un haut fonctionnaire de entre 25 et 35 ans qui est extrêmement motivé, qui a, comme me dit un de mes interlocuteurs, la mystique du service public, ça existe, il y en a beaucoup. En revanche, à partir de 40, 45 ans, les gens sont un peu plus aigris, ils voient que certaines coteries, que certaines personnes montent, sans forcément être les plus talentueux. Et donc, quand il y a cette espèce de désillusion qui arrive, qui peut en partie expliquer que les gens soient prêts à trahir leur vocation originelle. Mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a aussi, beaucoup d'ego, des personnes qui ont été importantes quand elles se retrouvent à la retraite avec un niveau de vie qui va être bien inférieur à celui de gens qui ont fait des affaires. C'est difficile pour eux de s'enfermer à la campagne ou dans leur appartement et de donner 3 cours à Sciences Po. Ça leur suffit pas par rapport à ce qu'ils étaient avant.
Tout le monde n'est pas François Guizot qui, après renversement de la marche de juillet, a fini ses jours à Lisieux à faire des livres d'histoire, finalement.
Mais c'est ça qui est, alors pour le coup, c'est ça qui est assez dingue, je trouve. Moi, c'est pas un sujet sur lequel je me suis beaucoup penché, mais c'est une observation quand même qu'on peut pas s'empêcher de faire. C'est que le fait que les élites se fréquentent beaucoup, les élites du monde entier se fréquentent beaucoup et plus facilement qu'avant, ça crée justement une espèce de destin commun ou d'envie commune qui font qu'en fait, un diplomate à l'ancienne qui se retrouvait avec en étant propriétaire d'un petit appartement et d'une petite maison de campagne sans avoir un niveau de vie extraordinaire mais en étant confortable. Il y a 15-20 ans, je pense qu'il se satisfaisait beaucoup mieux et beaucoup plus de ça que maintenant que ses anciens collègues sont banquiers d'affaires ou que à Washington, il a croisé des copains de promo qui vivent beaucoup mieux que lui.
Il y a un effet mimétisme aussi. Moi, si on voit ses camarades faire ça, on dit bah pourquoi pas moi.
Oui, exactement. Mais c'est ça qui je trouve aussi assez intéressant, et notamment quand j'ai un chapitre dans lequel je parle des Français dans les organisations internationales, c'est qu'en fait le service de l'intérêt de son pays, qui est quand même au cœur de la plupart des missions officielles, en fait il est assez dilué et personne n'arrive vraiment à savoir lequel est-il en fait. C'est ça qui est un vrai sujet. Et la deuxième chose aussi, c'est que on voit que, et ça il y a plusieurs cas que j'aborde qui vont dans ce sens-là, que il y a pour des raisons idéologiques, pour des raisons de tropisme géographique, certaines personnes vont trouver naturel, après avoir passé toute une carrière au Quai d'Orsay, je pense notamment à Gérard Araud, qui a quand même passé toute sa carrière au Quai d'Orsay, à faire partie des personnes qui étaient très favorables aux instances internationales, à l'OTAN, aux questions voilà de l'égalité internationale. En fait, sa position qui était une position qui était contestée en interne par des personnes qui avaient une approche différente, finit par être très contestable parce qu'aujourd'hui il siège au sein de l'Atlantic Council qui est le plus grand think tank américain atlantiste, et c'est ça que j'essaie de lui faire comprendre quand je lui parlais ou quand je parlais à d'autres, c'est que en fait leur deuxième partie de carrière finit par jeter le doute sur toute leur carrière, c'est-à-dire que pendant des années des mauvaises langues disaient de lui c'est un atlantiste, c'est quelqu'un qui est pro-américain, etc. S'il avait pris sa retraite tout simplement, donné des cours à Sciences Po et conseillé quelques entreprises ou françaises ou j'en sais rien, les gens auraient pu dire, enfin il aurait pu répondre bah oui mais en fait c'est ma vision du monde et c'est mon approche stratégique pour la France. Là maintenant c'est quand même beaucoup plus difficile à défendre.
Alors, quand on parle donc de ces Français au service de l'étranger, Clément Fayol, il y a la question de l'intelligence avec l'ennemi. Ça, c'est un délit en temps de guerre. Est-ce que ça ne pourrait pas redevenir un délit aujourd'hui, si on aborde la question de la guerre économique, par exemple? On a évoqué quelques noms. Enfin, il ne s'agit pas d'attaquer les gens, évidemment, ce qu'on donne là sont des données publiques, mais d'autres sont concernés. Est-ce que une manière de pour la France de se protéger de ça, ça serait pas de considérer que c'est un cas d'intelligence avec l'ennemi, et donc d'avoir des sanctions, d'interdire peut-être à certains tout contact, par exemple à Jean-Pierre Raffarin d'aller en Chine, ou à d'autres d'aller à Moscou ou à Washington, et de prévoir un cas de sanctions comme quelqu'un qui ferait de l'espionnage, quelqu'un qui ferait de la divulgation d'informations.
Il y a plusieurs choses en fait qui font que le problème est plus complexe. La première, c'est que effectivement dans le code pénal, il existe toujours intelligence avec l'ennemi, et les intérêts économiques essentiels font partie de ce qui peut entrer en matérialisation de l'infraction. En soi, on pourrait considérer que quelqu'un qui a participé à la perte d'un intérêt économique essentiel, énergétique ou autre, pour citer certains, que cette personne, en soi, et c'est du point de vue du texte, pas forcément de la jurisprudence, mais du texte, ça pourrait rentrer en jeu. Enfin, on pourrait comprendre que cette ficelle-là existe. Mais dans les faits, c'est le dernier chapitre de mon livre. Dans les faits, les dossiers dans lesquels on cherche des traîtres, des gens qui sont dans l'intelligence avec l'ennemi, qu'on va essayer de qualifier de traîtres d'un point de vue pénal, ben ce ne sont quasiment que les militaires en fait. Ce sont quasiment que les militaires ou des personnes qui sont dans les systèmes de sécurité. Et ça c'est un sujet que je trouve intéressant à souligner. C'est qu'en fait, ce chapitre s'appelle la chasse aux traîtres et ses ratés. C'est qu'on voit que il y a une espèce de domaine réservé, c'est-à-dire qu'on demande à être absolument nickel sur ces sujets qu'aux militaires et qu'aux gens des forces de sécurité, alors qu'en soi, le texte dit qu'il suffit d'être français pour être considéré comme faisant l'intelligence avec l'ennemi. Après, par ailleurs, quand vous demandiez si qu'est-ce qu'on pourrait faire, est-ce qu'on pourrait resserrer la vis pour être plus efficace, le problème, c'est que ensuite, il y a un problème d'ordre démocratique. les pays qui se protègent le mieux sont des pays qui, dans lesquels l'arbitraire règne plus facilement. Effectivement, en Chine, l'ancien patron de l'Interpol il a disparu parce qu'ils n'étaient pas exactement sûrs de lui. En Russie, il y a une loi qui interdit les anciens espions de sortir du territoire pendant une période. Je veux dire, ce genre de solution, si on les prenait, elles seraient considérées comme choquantes chez nous. Donc, trouver une solution, je sais, enfin, d'un point de vue pénal, je sais pas si ça se trouve. Ce qui est sûr et certain, c'est ce qui m'a le plus frappé, c'est quand je vais chercher des documents, des preuves, des choses qui sont quand même assez accablantes, quand je pose la question aux principaux concernés, ils voient pas où est le problème. C'est ça qu'ils me disent, bah oui, je ne suis plus en poste. Pourquoi est-ce que je travaillerais pas pour le Qatar contre la France? Pourquoi est-ce que je travaillerais pas pour les États-Unis contre Alstom? Enfin, c'est surtout ça qui est problématique. C'est une espèce de normalité, quelque chose d'absolument normal.
Et alors, enfin, les parallèles sont parfois un peu hasardeux, mais c'est-à-dire qu'il y a chez ces personnes-là un sentiment complet de perte d'intérêt national. Et finalement, si ces gens-là qui sont de l'élite ne défendent pas eux-mêmes la nation, c'est après plus compliqué de demander à des personnes qui ne sont pas membres de l'élite, enfin, on voit les questions de séparatisme et autres, de respecter eux-mêmes une nation si leurs anciens dirigeants ne le font pas.
C'est clair que c'est comment dire, l'élite ne se justifie, c'est même je l'écris comme ça dans le livre, que si l'élite ça n'est que la somme des personnes qui ont réussi, c'est plus une élite, ce sont des privilégiés. Et s'il n'y a plus justement ce petit caractère, ce petit supplément de responsabilité pour l'intérêt général, c'est pas surprenant que ce soit devenu un mot péjoratif. Qu'aujourd'hui, quand on parle d'élite, c'est tout de suite péjoratif. C'est parce que voilà, cette responsabilité-là a complètement sauté. Mais je vous le dis, ça se voit quand on leur parle, quand on leur demande. Mais comment est-ce qu'on peut être banquier d'affaires pour une grande banque américaine après avoir travaillé au Trésor? Ils vont vous répondre, parce que j'ai plus d'obligations, j'ai fait mes années, j'ai fait les années que je devais à l'État, maintenant je passe à autre chose.
Dans ce cas, il faut peut-être mettre une obligation post-année à l'État, en considérant qu'il y a une période probatoire de 10-15 ans peut-être, où on ne peut pas travailler pour une entreprise étrangère ou pour un État étranger, ça pourrait être une solution.
Et c'est ça aussi qui est problématique, c'est qu'en fait, dans la culture française, il y a quelque chose qui est assez présent, c'est la lutte contre le conflit d'intérêts, ce qui est une bonne chose, la lutte contre la corruption. Mais on finit à se focaliser sur ce sujet, on crée un espèce de verrou qui, une fois qu'il saute, rend tout possible. Et ça veut dire que vous avez un ancien fonctionnaire qui va aller travailler dans le privé. Si c'est pas jugé comme conflit d'intérêt, c'est-à-dire que si ce qu'il va faire après n'a rien à voir avec ses fonctions précédentes, ça sera pas problématique. Et ça, c'est une vision qui est pas du tout stratégique, qui est plus comment dire de l'ordre du
très légaliste.
Oui, c'est très légaliste. Il y a des cas comme ça qui montrent tout l'absurde dont je parle, notamment. Il y a une commission, il y avait un ancien technicien de la DGSI qui s'occupait de tout ce qui est sécurisation des télécommunications. Il voulait sortir de ses fonctions. Il est passé en commission pour savoir ce qu'il pouvait faire. On lui a expliqué, comme vous vous occupiez de la sécurisation des télécommunications françaises, vous étiez donc en contact avec tous les opérateurs français. Vous ne pouvez donc travailler avec aucun des opérateurs français. Donc, on a quelqu'un qui s'occupait de la sécurisation des grands groupes français. Et qui aura le droit de travailler pour Huawei, qui aura le droit de travailler pour Vodafone, qui aura le droit de travailler pour une société étrangère, mais qui aura pas le droit de travailler pour les sociétés françaises. Donc voilà, il y a cette conception-là du public privé, de l'intérêt national, du fait que les entreprises ne sont plus exactement dans une démarche collective d'intérêt national, qui fait que le problème est très complexe à régler.
Et évidemment, ces gens-là utilisent les réseaux qui sont les leurs, donc réseaux d'écoles, d'anciens, de connaissances. Donc, ils vont forcément utiliser les services de l'État ou les réseaux de l'État pour leurs affaires privées.
Et c'est ça aussi qui est difficile à dire sans être dans le jugement, mais qui est quand même vrai. C'est de dire qu'en fait, des têtes bien faites, il y en a partout. Des gens qui sont capables de faire ce qu'ils sont capables de faire, il y en a beaucoup. Donc, ils devraient quand même avoir à l'esprit que la raison pour laquelle ils sont plus intéressants que quelqu'un d'autre, c'est parce qu'ils connaissent les institutions et donc ils vont permettre de faire de l'entrisme. Je prends, donne l'exemple d'un ancien de cabinet d'Annie Girardin qui passe chez Huawei. Quand lui postule pour être le lobbyiste de Huawei en France, la raison pour laquelle Huawei lui saute dessus et le fait signer immédiatement, c'est parce qu'ils se disent bon ben on a quelqu'un qui va nous guider dans les institutions, des gens qui savent faire de la communication, des gens qui savent présenter un message, qui savent défendre, il y en a beaucoup, mais des gens qui ont le portable et qui connaissent les gens en interne, c'est une autre histoire.
Je voudrais terminer, Clément Fayol, sur la méthode qui est la vôtre en matière de journalisme, parce que c'est aussi un sujet intéressant. Il y a plusieurs types de journalisme, et derrière ce mot peut être beaucoup de choses. Vous êtes journaliste d'investigation, et donc on le voit dans vos ouvrages, et je renvoie nos auditeurs à une précédente émission qu'on avait consacrée au réseau mafieux de Daesh. Ce genre de livre ou d'enquête, quand vous le réalisez, c'est fait à base d'entretiens, alors vous citez beaucoup, hein, l'ouvrage est composé des sources et des citations que vous avez citées. Donc ça veut dire un recueil d'informations importants, le fait d'aller voir les gens. Et ce qu'on voit dans votre ouvrage, c'est qu'il n'y a jamais de jugement de valeur. D'ailleurs, vous collectez les faits, vous les présentez, mais sans. Enfin, après, c'est au lecteur à se faire l'idée qui est la sienne.
Moi, je trouve que ma vision du journalisme, le journalisme que j'essaie de pratiquer, c'est vraiment celui de prendre du temps de décrypter des réseaux, d'aller chercher des choses qui sont cachées, auxquelles le public n'a pas accès, pour ensuite les lui mettre de la manière la plus accessible et la plus brute possible. Dans le livre, et dans mes livres précédents aussi, je fais toujours des dizaines et des dizaines de notes de bas de page, parce que je pense que quoi qu'on dise, il faut que le lecteur sache d'où ça vient. Il faut qu'il sache que quelque chose vient d'un autre article, du travail d'un autre journaliste, ou alors qu'il vient d'un entretien, deux entretiens, trois entretiens, un document, et qu'il faut toujours tout recouper. Et pour ce sujet-là en particulier, je trouvais que c'était important de mettre à jour des réseaux et de faire comme une espèce de dissection de réseaux, une cartographie de réseaux, de montrer que les réseaux ont un impact, que l'informel, moi c'est ce que je défends dans le journalisme, c'est on peut traiter l'information en étant éditorialiste, en faisant de l'analyse, c'est très bien, mais il faut faire du journalisme aussi offensif, qui va aller chercher ce que les gens veulent pas montrer pour dévoiler un peu la place et le poids de l'informel. Et sur les réseaux internationaux, c'est aussi très important et très intéressant de voir que justement la politique étrangère de la France, parfois, elle peut avoir des points de jonction, elle peut avoir des aspects qui sont issus de réseaux que personne n'a identifié.
Et ça prend beaucoup de temps, je suppose, enfin, de collecter les réseaux, ça veut dire aussi aller voir beaucoup de monde, donc c'est un travail qui se fait sur un temps long. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui dans la presse travailler sur un temps long? On n'est pas que dans l'immédiat de l'agence, enfin du fil d'agence Reuters ou AFP ou...
Moi, j'espère, et c'est ce que je fais depuis maintenant quelques années. Je pense que en ayant toujours une enquête pour un livre, en participant à des enquêtes pour des maisons de production, pour des journaux, en faisant comme ça des temps longs. Je pense qu'il y a toujours un public, et puis dans la diversité de la presse, on trouve toujours quelqu'un à qui vendre une bonne enquête. Et puis je pense et j'espère que c'est l'avenir du journalisme, qu'il y aura de moins en moins de commentaires et de plus en plus d'infos brutes.
Ce qui veut dire aussi, et là je m'en place de l'autre côté du micro, c'est que ça veut dire qu'il y a des lecteurs ou des auditeurs qui sont prêts aussi à payer pour avoir une information de qualité, parce que vraiment, tout ça c'est un coût. Si on veut avoir aussi une presse de bonne qualité, il faut des bons journalistes, il faut aussi des bons lecteurs et des personnes qui comprennent aussi l'importance de la bonne information, et les choses ont un coût et rien n'est gratuit.
Non, c'est ça, et après, mais du point de vue des journalistes, il faut aussi avoir une vraie rigueur, c'est-à-dire d'essayer de donner à voir la méthode de travail, c'est-à-dire comme pour que les gens qui sont vraiment bien intentionnés, qui veulent vraiment comprendre quelque chose, voient aussi les limites d'une enquête. Moi, quand je fais une enquête comme ça sur les Français services de l'étranger, j'ai pas la prétention de dire qu'elle est exhaustive. J'ai pas la prétention de dire qu'avec ça, on a tout dit sur notre époque, sur nos élites et sur l'international. Mais j'affirme que ce que je montre est vrai, vérifié et documenté. et qu'il n'est pas anodin et mérite de nourrir un débat.
Bien, merci beaucoup, Clément Fayol, d'avoir évoqué ces sujets avec nous. Enfin, nos éditeurs peuvent retrouver toutes les informations sur le livre sur le site internet de Conflit, ainsi qu'une précédente émission avec Clément Fayol sur les réseaux mafieux de Daesh. Et puis, je vous rappelle que le nouveau Conflit est en kiosque consacré à la Méditerranée orientale, le Gaza, la Libye, la Turquie, Israël, l'Égypte. Un dossier avec de très nombreuses cartes réalisées par Jean-Marc Holz et Patrick Poncet, notre cartographe, qui devrait beaucoup vous intéresser et permettre de mieux comprendre cette zone et les dangers qu'elle représente. Merci pour votre fidélité, à la semaine prochaine.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.